Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 25 Farvardin, 1401 du calendrier iranien, 14 avril 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Le rassemblement de solidarité devant l'ambassade d'Iran à Kaboul. La destruction du régime sioniste s'accélère, a déclaré le commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique. La présence de forces étrangères dans la région est illégale et nuit à la sécurité, avertit le ministre iranien de la Défense. Et 50 jours de guerre en Ukraine, un croiseur russe a été endommagé dans la mer Noire. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Se référant ce jeudi aux récentes opérations et évolutions dans les territoires occupés de la Palestine, le commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Ismail Rahani, a déclaré « Nous soutenons tous les groupes qui se battent pour la libération de la Palestine et contre l'occupation israélienne ». Il a prévenu que l'Iran affrontera durement le régime sioniste partout où elle le jugera nécessaire. Si un acte d'agression est perpétré contre les intérêts de l'Iran n'importe où dans le monde, nous y réagirons avec fermeté, a promis le général Rahani. Il a rappelé au régime occupant le puissant raid aérien du corps des gardiens de la révolution islamique sur les bases secrètes de l'agence d'espionnage israélienne Mossad dans la région du Kurdistan irakien. À Erbil, de nombreuses personnes qui vivaient à côté de vous ne savaient pas que le site attaqué était votre base, mais vous étiez sous notre surveillance, a-t-il déclaré, s'adressant aux sionistes. Par conséquent, partout où nous identifierons une menace israélienne, nous y réagirons avec toutes nos forces, a encore déclaré le général Rahani. Lors d'une vidéoconférence, les ministres iraniens et japonais de la Défense ont souligné l'élargissement de la coopération entre Téhéran et Tokyo. Le général Mohammad Reza Ashtiani a réaffirmé que l'Iran et le Japon avaient des positions similaires dans les régions stratégiques de l'Asie de l'Ouest et de l'Est et que les deux pays renforcent leurs relations dans le cadre de la paix et de la stabilité de manière positive et constructive. Évoquant les spécificités géopolitiques de la région du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz, le ministre iranien de la Défense a averti que la présence illégitime des forces étrangères dans la région y perturbe la sécurité. Le ministre japonais de la Défense, pour sa part, a souligné la nécessité pour Tokyo de coopérer avec l'Iran afin d'assurer la sécurité maritime. Alors que le conflit en Ukraine entre dans son 50e jour, le théâtre de la guerre se déplace principalement vers l'est et le sud du pays. Les forces ukrainiennes affirment avoir endommagé un navire de guerre russe dans la mer Noire avec des frappes de missiles. Selon le ministère russe de la Défense, le croiseur Moskva, qui était en flammes ce jeudi matin, n'a pas coulé. Le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire a tout de même été fortement endommagé, mais le foyer de l'incendie a été circonscrit et les explosions de munitions ont cessé, assure le gouvernement russe. Si Moscou dit enquêter sur les causes du sinistre, l'Ukraine affirme avoir attaqué le bâtiment. Le ministère russe de la Défense a confirmé que ses troupes avaient désormais le contrôle total du port de la ville assiégée de Marioupol. Moscou a également menacé de frapper les centres de commandement ukrainiens dans la capitale Kiev si les attaques contre la Russie se poursuivent. Moscou a accusé les forces de Kiev d'avoir attaqué un territoire du sud de la Russie. Commentant la situation sur le terrain, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré qu'un cessez-le-feu humanitaire en Ukraine ne semble pas possible. Les forces israéliennes ont mené un nouveau raid meurtrier dans deux villages palestiniens de Cisjordanie, au milieu d'une colère anti-régime sioniste croissante dans les territoires occupés. Des soldats ont tué deux Palestiniens et en ont blessé plusieurs autres au cours de l'opération qui s'est déroulée près de la ville de Jenin tôt ce matin. L'armée israélienne multiplie ses attaques contre les différentes localités de la Cisjordanie tout en y déployant des renforts. Dans le même temps, le régime sioniste essaie de faire reconstruire des parties touchées du mur de séparation situé au nord de la Cisjordanie. Dans la ville de Beit Amar, au nord de Al-Khalil, deux jeunes Palestiniens ont été blessés, dont un grièvement, par balle des militaires israéliens. Le jeune, dont les blessures étaient plus graves, a été appréhendé par les forces sionistes. La répression a déclenché des protestations palestiniennes. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les victimes avaient été touchées à balles réelles. Les derniers décès portent à 10 le nombre des Palestiniens tués aux mains des Israéliens depuis le week-end. Les groupes de résistance des villes de Ramallah et de Bethléem ont déclaré une grève générale jeudi. Ils appellent le public palestinien à intensifier les confrontations avec Israël. La situation est très volatile dans les territoires occupés. Ces dernières semaines, il y a eu une recrudescence des attaques des représailles palestiniennes, faisant plus d'une dizaine de morts parmi les Israéliens. Et enfin, le suspect des tirs dans le métro de New York a été arrêté. L'homme de 62 ans était activement recherché après la fusillade qui a fait 23 blessés mardi à Brooklyn. Il sera poursuivi pour attaque terroriste. L'homme soupçonné d'avoir tiré dans le métro new-yorkais à l'heure de pointe mardi matin, provoquant le chaos et faisant 23 blessés, dont 10 par balle, a été arrêté mercredi et sera poursuivi pour attaque terroriste, ont annoncé les autorités. Recherché pendant plus de 24 heures, le suspect, Frank James, un Afro-Américain de 62 ans, a été interpellé dans le quartier East Village à Manhattan grâce à un signalement selon la police new-yorkaise. Nous l'avons eu, s'est félicité lors d'une conférence de presse le maire démocrate de New York, Eric Adams, attendu au tournant sur le thème de la lutte contre la criminalité, lui qui en avait fait un thème de campagne pour être élu l'an dernier. Mardi matin, vers 8h30, dans un train bondé de la ligne N, le suspect, qui portait un masque à gaz, a allumé deux engins qui ont enfumé le wagon, puis a tiré sur les passagers, alors que le train entrait dans la station de Brooklyn. Un grand rassemblement de solidarité a eu lieu mercredi 13 avril devant l'ambassade de la République islamique d'Iran à Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Les participants à ce rassemblement ont condamné des attaques contre les représentations diplomatiques de la République islamique d'Iran en Afghanistan et ont offert des bouquets de fleurs à l'ambassade d'Iran en signe de solidarité avec la République islamique d'Iran. Dans une déclaration, les Afghans qui ont participé à ce rassemblement ont appelé les deux nations amies et frères, l'Afghanistan et l'Iran, à plus de vigilance et à l'unité face aux conspirations de leurs ennemis communs qui tentent de diviser les peuples iraniens et afghans. La déclaration qui a été lue à l'issue de ce rassemblement, a souligné « Ce rassemblement est l'expression de l'opposition de la nation afghane aux ennemis, aux hypocrites et aux divisionnistes et un signe aussi de la solidarité et des relations fraternelles entre les deux nations iraniennes et afghanes. Nous demandons au gouvernement afghan et au gouvernement de la République islamique d'Iran d'agir avec fermeté contre les ennemis divisionnistes de nos deux nations. » Dans une autre partie de cette déclaration, les participants à ce rassemblement ont vivement condamné l'attaque contre le consulat de la République islamique d'Iran à Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Pour condamner les conspirateurs et pour exprimer notre solidarité avec les Iraniens, nous nous rassemblons aujourd'hui devant l'ambassade de la République islamique d'Iran à Kaboul et nous offrons des fleurs aux membres du corps diplomatique iranien en signe de solidarité, d'amitié et de convergence entre les deux peuples iraniens et afghans, peut-on lire dans la déclaration. Agissant aux incidents de Herat, la République islamique d'Iran a appelé à une action en justice contre les assaillants, déclarant que le gouvernement des talibans par intérim de l'Afghanistan est responsable de la protection des missions diplomatiques étrangères. La veille, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, avait mis en garde contre les complots de certains ennemis de la République islamique d'Iran et de l'Afghanistan visant à semer la discorde entre les deux pays. Selon l'ambassadeur d'Iran à Kaboul, les vidéos des mauvais traitements infligés aux réfugiés afghans en Iran ont été réalisées par un groupe terroriste anti-iranien. Dans une interview, Bahadur Aminian, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Kaboul, a déclaré que le groupe terroriste de l'organisation Mujahedin-e-Khalq, OMK, menait des efforts systématiques dans le but de rompre les relations amicales entre Téhéran et Kaboul. L'OMK, basé en Albanie, est également actif en Afghanistan, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'ils produisent des vidéos pour créer des problèmes pour le gouvernement iranien. La République islamique d'Iran accueille quelque 3,6 millions de réfugiés afghans avec et sans papiers qui ont quitté leur pays en raison de la guerre et des conditions de vie difficiles, en particulier à la suite de la prise de contrôle du pays par les talibans qui a entraîné un afflux de réfugiés vers les pays voisins.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder cette passe d'armes qui se poursuit entre la Russie et le camp occidental. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé, c'était hier, mardi 12 avril, que l'opération militaire de Moscou en Ukraine atteindrait sans doute ce qu'il a qualifié de noble objectif. Vladimir Poutine a déclaré que Moscou n'avait d'autre choix que de lancer une opération militaire pour protéger la Russie qu'un affrontement avec les forces anti-russes ukrainiennes était inévitable. Dans le même temps, la Russie a réagi à cette éventuelle adhésion de deux pays, la Finlande et la Suède, à l'OTAN. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a réitéré que l'OTAN restait un outil orienté vers la confrontation. Il a dénoncé la poursuite de l'expansion de l'alliance militaire en Europe, la possibilité d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN a de nouveau été évoquée récemment au milieu des tensions de l'Occident avec la Russie à propos de la guerre en Ukraine. Le département d'État américain a déclaré que la perspective de l'adhésion des deux pays à l'OTAN avait été discutée lors d'une réunion entre les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance. Dans le même temps, le secrétaire d'État général de l'OTAN a déclaré qu'il serait possible qu'il serait en fait possible d'admettre l'adhésion d'Helsinki et de Stockholm à l'organisation de, si vous voulez, de l'Atlantis, de l'Alliance Atlantique très rapidement. Ajoutez à tout cela les accusations qui avaient été lancées ces derniers temps concernant d'éventuelles utilisations d'armes chimiques par les forces russes en territoire syrien, des accusations qui avaient été rejetées en bloc par la Russie. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Moscou un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Fabrice Beurre. M. Beurre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur Presse TV.
Et j'ai également le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission au téléphone depuis Bruxelles un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, M. Luc Michel. M. Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, à votre équipe et bien entendu à mon collègue et ami Fabrice Beurre.
Luc Michel, on va commencer avec vous notre émission d'aujourd'hui. Comme première question, je viens de lancer le sujet. Comment évaluez-vous cette passe d'armes entre la Russie et le camp occidental sur plusieurs sujets d'ailleurs, Luc Michel?
Écoutez, l'OTAN pratique l'autisme géopolitique. Les Russes ont clairement exprimé leur volonté de ne plus voir d'extension de l'OTAN Et bien loin de répondre aux préoccupations de la Russie, l'OTAN s'agrandit à deux États qui étaient jusqu'ici neutres, la Suède et la Finlande. Ajoutons que s'ajoute un troisième État qui voit aussi sa neutralité brisée, c'est la Suisse, puisque la Suisse participe violemment aux sanctions contre la Russie et que déjà dans des dossiers, par exemple, comme l'Afghanistan depuis de nombreuses années, l'armée suisse participe à des missions communes avec l'OTAN. C'est donc une volonté de confrontation qui correspond à la volonté de confrontation de l'administration Biden. Plus que jamais, l'OTAN et les États-Unis, c'est la guerre.
Et quel sera en fait le résultat de cette éventuelle confrontation que vous venez en fait d'évoquer, Luc Michel?
Ben écoutez, simplement une radicalisation, c'est-à-dire que petit à petit, l'OTAN, avec derrière eux les États-Unis, sont en train de détruire tout ce qui était la diplomatie internationale telle qu'elle existait depuis 1945. C'est une volonté de confrontation. Biden, dès 2021, est revenu au bloc idéologique. Le bloc américano-occidental étant celui des démocraties libérales, selon Biden, et de l'économie libérale, et le bloc de l'Est de la Russie, de la Chine et de l'Iran étant celui des autocraties illibérales. En réalité, c'est l'opposition géopolitique traditionnelle qui est revenue. D'un côté, les thalassocraties occidentales, de l'autre côté, les vieux empires continentaux, la Russie, la Chine et l'Iran.
Fabrice Seber, vous venez d'entendre l'analyse de Luc Michel. Votre lecture des faits, s'il vous plaît, et parlez-nous un peu de cette prise de position ferme de Vladimir Poutine et de cette surtout position de Moscou à l'égard d'une éventuelle adhésion de ces deux pays, si vous voulez, la Suède et la Finlande, à l'OTAN, s'il vous plaît.
Erreur historique pour la Finlande, puisque c'est sa neutralité qui garantit sa souveraineté en réalité, son bon voisinage avec la Russie. Le langage de Moscou a toujours été clair. Nous cherchons à garantir notre sécurité, donc à éloigner les menaces militaires et à avoir une zone tampon. D'où, entre autres, son opération militaire spéciale en Russie, en Ukraine, pour produire une neutralité de cet État afin de garantir un espace tampon entre elle et le bloc de l'OTAN. Et la Finlande, voulant briser ce statu quo qui lui est profitable, fait une erreur historique, mais cela prouve deux choses qui peuvent d'ailleurs ne pas être en contradiction. La première étant que nous sommes bien effectivement dans une politique de fuite en avant, je dirais. L'agressivité de l'OTAN a toujours été le cas, puisque dans ses documents officiels, il est indiqué que la Russie est un ennemi géopolitique. C'est expliqué noir sur blanc, donc ce n'est pas un fantasme de la part de Moscou. C'est une première chose, et donc il force même les petits pays à choisir leur camp. Mais cela prouve également un élément qui est finalement assez symptomatique de ce qui se passe en Europe occidentale, à savoir que les élites de ces pays, les élites en Europe, que moi j'appelle plutôt le parti américain en réalité, puisqu'ils ne défendent absolument pas leurs propres intérêts nationaux, mais ceux du bloc occidental qui n'est en fait que l'impérialisme américain, aujourd'hui sont hors sol, puisqu'il y a une forme de méconnaissance historique, une forme de méconnaissance géopolitique de leurs propres intérêts, ou alors une forme de lâcheté, de complicité ou de collaboration. Il faut employer les termes tels qu'ils sont. Donc on est bien aujourd'hui dans une confrontation géopolitique majeure. La Russie a arrêté cette hypocrisie que le bloc occidental utilisait afin, par la politique des petits pas et des coups de butoir arrivés à ses fins, c'est-à-dire l'encerclement total de la Russie et la destruction de son État par des révolutions de couleur. La récréation est terminée et la Russie remet au centre, donc aujourd'hui, de l'actualité, la réalité. Et la réalité géopolitique, c'est celle de la confrontation entre deux blocs. Donc le bloc eurasien, qu'on peut, comme l'a indiqué Luc Michel, C'est en fait un bloc de puissance terrestre contre le bloc euro-atlantique, qui est en fait tout simplement la thalassocratie américaine.
Luc Michel, plusieurs dirigeants occidentaux se sont rendus à Kiev où ils ont rencontré le président ukrainien. Et, ils ont avancé en fait cette question d'utilisation d'armes chimiques en territoire de ukrainien. On vient de le dire tout à l'heure, on avance en fait cette idée d'une éventuelle adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. S'agit-il, Luc Michel, en fait, en ce qui concerne ces agissements politiques et militaires, s'agit-il en fait des actes de provocation à l'endroit de la Russie, à l'endroit surtout du président russe Vladimir Poutine, ou bien s'agit-il en fait d'un levier de pression pour pousser la Russie de Vladimir Poutine à revenir, si vous voulez, sur sa position à l'égard, si vous voulez, de l'Ukraine?
Non, il s'agit d'une fuite en avant. L'OTAN et les États-Unis ont choisi la confrontation totale, confrontation militaire, confrontation nucléaire, confrontation dans la guerre économique, confrontation dans la guerre médiatique, et dès lors, ils ne sont pas décidés à revenir en arrière. Ils iront jusqu'au bout et ils sont dans une espèce de logique qui est une folie, en fait, qui est celle d'aller dans la confrontation jusqu'en avant et d'aller toujours plus loin. Il faut comprendre quelque chose, évidemment, c'est que ces gens, ils sont pris un peu ce que les anciens Romains appelaient l'hubris. Ils sont pris dans une espèce d'arrogance et de volonté et de supériorité qui va les conduire à leur destruction, à commencer par la destruction de l'État ukrainien qui leur sert de poisson pilote dans cette affaire.
Fabrice Beurre, est-ce que vous estimez tout comme Luc Michel que c'est une politique de la fuite en avant de l'OTAN? Si votre réponse est affirmative, est-ce que si en fait l'OTAN insiste sur l'adhésion de ces deux pays, la Suède, la Finlande, demain peut-être la Suisse et d'autres pays, est-ce que la Russie va aller plus loin pour protéger ce qu'il qualifie, si vous voulez, d'une nécessité pour protéger la Russie, pour protéger la sécurité de la Russie de Fabrice Beurre?
Dès la notification médiatique que la Finlande pensait à adhérer à l'OTAN rapidement, ça veut dire qu'ils le veulent et qu'ils vont le faire. L'armée russe a déjà déployé des missiles près de la frontière finlandaise. Donc c'est une première réaction, un avertissement. Est-ce qu'il va être entendu par la présidente de la Finlande? J'ai un fort doute du seul fait que je remets en cause une décision souveraine de leur part, comme dans tous les pays du NATO-land qui ne sont en fait que sous commandement américain. Ça, c'est la première chose. Oui, c'est une fuite en avant. Une fuite en avant pour différentes raisons, mais une des raisons également, c'est que depuis très longtemps, depuis 2007-2008, la dernière crise économique, en fait, le bloc occidental qui a entraîné le monde, d'ailleurs, dans sa crise, est en décadence économique, pas que économique d'ailleurs. Et nous avons aujourd'hui une situation où, voyant effectivement sa domination mise en cause, entre autres par la Chine et par d'autres pays émergents, allons-nous dire, ou revenant sur la scène internationale en ce qui concerne la Russie, nous avons donc une fuite en avant en ce sens qu'ils déploient toute leur artillerie dans tous les domaines afin de détruire ce qu'ils considèrent comme des concurrents. Et dans leur géopolitique, dans la géopolitique américaine, qui détient en fait le State Department et qui fait qu'ils appliquent la politique qu'ils appliquent aujourd'hui dans le monde, il est indiqué effectivement qu'ils ont deux ennemis, la Russie et la Chine. Ils voudraient d'abord détruire la Russie et après, évidemment, la Chine. C'est extrêmement clair, c'est noir sur blanc, c'est discuté à Washington ouvertement, publiquement. Et donc nous avons aujourd'hui une situation, comme Luc Michel l'a indiqué, où ils vont aller jusqu'au bout, même en s'auto-intoxiquant et même lorsqu'ils voient qu'ils se font harakiri, puisque si on prendrait simplement les sanctions que les Occidentaux font à l'heure actuelle, très minime en réalité pour l'économie américaine, sauf pour le dollar, mais c'est une autre question, à long terme. Mais pour les Européens, à court terme, c'est se faire harakiri, et ils le font. Même l'Allemagne, qui pourtant est un des pays les plus alignés sur l'impérialisme américain, donc totalement intégré dans l'OTAN, qui aujourd'hui va se réarmer, et ça ne choque personne, on va dire, en Europe et en France, que l'Allemagne va se réarmer. L'Allemagne très européenne qui achète des armes américaines, entre parenthèses, même l'Allemagne qui pourtant défendait encore le seul domaine de sa souveraineté, à savoir l'économie, aujourd'hui l'a sacrifié avec la question énergétique. Donc oui, nous sommes dans une fuite en avant. Oui, nous avons aujourd'hui une ligne de fracture avec deux blocs. Oui, la Russie arrête de jouer cette hypocrisie et a préféré devancer le combat que de devoir, bien évidemment, que de devoir le subir, comme le disait Poutine. J'ai appris une chose dans la rue à Saint-Pétersbourg, c'est que lorsqu'un combat est inévitable, il faut frapper le premier. C'est ce qu'a fait la Russie, et plus, si on prend que le cas ukrainien pour terminer là-dessus, plus le bloc occidental soutiendra l'affrontement indirect, et indirect encore, lorsqu'on livre des armes directement à la junte de Kiev, c'est pas exactement un combat indirect. Mais lorsque on soutient, donc on fait tout pour éviter que la diplomatie puisse reprendre pied et trouver une solution qui serait possible et acceptable par les deux parties. Les deux parties, c'est la Russie et l'OTAN, puisque l'Ukraine n'est qu'un pion. Plus ils tarderont, plus l'avenir de l'Ukraine en tant qu'État souverain sera remis en cause. Et quand je le dis ça, je dis que les Roumains, les Polonais, les Hongrois, même les Slovaques ont une vue sur une partie du territoire ukrainien. Et en tout cas, la Russie, je pense, on n'est pas dans les petits papiers, mais il y a une forte possibilité que le plan maximum, qui n'est pas le plan aujourd'hui qui est mis en application, mais que le plan maximum ou maximaliste que la Russie pourrait appliquer sur l'Ukraine, c'est le retour de la Novorossiya. Il suffit de regarder une carte, c'est-à-dire à ce qui était avant 1917, et que, en réalité, l'Ukraine, c'est Kiev et sa région tout autour. Donc nous sommes dans une situation où, évidemment, Moscou ne va pas faiblir, puisque aujourd'hui, quelles sanctions supplémentaires les Occidentaux peuvent-ils faire ? On assiste à un blocus que même sous l'URSS, je pense, on n'en était pas. Et vu la russophobie aujourd'hui qui est développée en Occident, évidemment, ça ne peut pas aller dans le bon sens. Donc aujourd'hui, non seulement l'élite en Russie, mais également l'ultra-majorité du peuple est dans une confrontation, a bien compris qu'il y avait deux mondes qui se faisaient, et sanction pour sanction, autant effectivement régler le problème définitivement de ce danger que les Américains et que l'OTAN étaient en train de former et d'armer pour leur objectif principal, la destruction de la Russie, puisque la destruction de la Russie, c'est la fin de l'Europe de Vladivostok à Lisbonne comme possibilité concurrente. Et après, c'est évidemment la destruction de la Chine, c'est l'objectif américain. Nous sommes bien aujourd'hui dans une nouvelle ère géopolitique. Celle-ci est instable, celle-ci va avoir des confrontations certainement brutales, mais c'est un nouveau monde qui est en train de se construire, et ce nouveau monde, évidemment, les Américains ne le veulent pas, puisque ce serait la fin de leur domination, de leur modèle, et finalement, ils reviendraient à une puissance régionale, et encore, c'est en cela qu'ils peuvent être dangereux, et c'est en cela qu'il faut, au niveau mondial, un front, justement, de tous les pays qui veulent s'opposer à cet unilitarisme américain.
Luc Michel, vous avez bien travaillé sur le dossier des Syriens. S'agissant en fait de ces accusations avancées sur d'éventuelles utilisations d'armes chimiques en territoire syrien, Vladimir Poutine, interrogé là-dessus, a en fait fait allusion aux accusations, si vous voulez, lancées contre la Syrie. Syrie également. Pourquoi, d'après vous, cette allusion de Vladimir Poutine à la Syrie, s'il vous plaît, Luc Michel ?
Parce que c'est la même opération qu'on a mis contre Damas en route il y a 5 ans, qui aujourd'hui est en route contre la Russie en Ukraine, mais également dans un domaine parallèle, on accuse également de massacre l'armée malienne. Il y a un article qui est paru hier matin dans le journal en ligne française Net. On accusait le fantomatique groupe Wagner, vous savez, cette construction médiatique qui accusent la Russie de tous les maux, on les accusait de massacres en Ukraine, en Libye, au Soudan, en Syrie, au Mali, en Centrafrique, etc. C'est donc une offensive globale et Vladimir Poutine a très bien compris que les différents fronts de confrontation avec l'Occident, c'est-à-dire la Syrie, l'Afrique et l'Europe centrale, l'Ukraine, la mer Noire, ce sont des fronts qui sont liés. En affaire, dans la guerre médiatique, les provocateurs qui montent les fake news contre la Russie, ce sont les mêmes qui étaient déjà à l'œuvre et des réseaux de George Soros avec les casques blancs, les white helmets. Maintenant, en Ukraine et au Mali, c'est Human Rights Watch et Amnesty International, c'est-à-dire les fleurons de celui que les Américains appellent Soros l'impérial.
Et là, vous voulez dire qu'en fait, Vladimir Poutine voulait sensibiliser l'opinion publique russe et internationale?
Évidemment, les Russes ont très bien compris ce qui va se passer. Ils ont très bien compris que s'ils l'emportent médiatiquement en Afrique, en Russie, en Chine, etc., ils n'ont pas gagné la bataille, loin de là, en Europe occidentale. Et à partir de ce moment-là, Poutine, évidemment, explique à l'avance ce qui va se passer, les provocations chimiques, les faux massacres, les fausses violations de droits de l'homme, etc. Nous sommes devant une campagne de grande ampleur. Le but de tout cela, avec Zelensky, qui est le chien courant de l'impérialisme, il s'apprête maintenant à attaquer en Afrique, eh bien, tout simplement, il s'agit de justifier des nouveaux trains de sanctions. C'est une fuite en avant qui rend impossible toute négociation et toute pacification. C'est l'erreur absolue de Zelensky. C'est-à-dire que plus Zelensky va exciter les Occidentaux à la guerre contre la Russie, plus l'Ukraine, comme le dit Poutine, va voir son statut d'État remis en question.
Fabrice Beurre, en quelques phrases, s'il vous plaît, nous avons une minute devant nous. Pourquoi cette allusion faite par Vladimir Poutine à la Syrie, s'il vous plaît?
Provocation, organisation, manipulation, guerre médiatique. Et comprenez bien qu'avec la victoire de Mariupol qui ne saurait tarder, puisque dans hier et dans la nuit, il y a eu une reddition massive de soldats ukrainiens, ne reste plus que les bataillons Azov, donc ces militants extrémistes. Nous savons que pour son combat contre la Russie, Zelensky a besoin d'exciter l'opinion ukrainienne, puisque voir des milliers de soldats, des centaines, parce que c'est 1036 exactement, de soldats ukrainiens se rendre les mains en l'air, c'est pas bon pour le moral et pour la propagande de guerre. Donc ils ont besoin de nouveau d'une nouvelle provocation. Ils ont fait les massacres à Boutcha, qui est la ville dans le nord-ouest de Kiev. Ils en parlent ailleurs. Ils ont tiré des missiles sur une ville qu'ils contrôlent eux-mêmes. Et donc, ils vont certainement faire une provocation à l'arme chimique. Donc, la comparaison ici est tout à fait raison.
Merci infiniment, Fabrice Beurre, analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, géopoliticien belge, d'avoir été au téléphone avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants taquiristes. Se revendiquant d'Al-Qaïda et de l'idéologie de Daesh, un groupe terroriste hybride semble apparaître en Algérie. Des terroristes algériens ont récemment mis en ligne une vidéo sur le canal médiatique d'Acmi pour appeler les Algériens à faire le djihad. Ses membres mettent en avant l'idéologie radicale de Daesh qui ne répond pas aux référents d'Al-Qaïda. Nous vous présentons ici le décryptage d'un spécialiste des groupes terroristes au Maghreb, Tarek Hafid. Selon le spécialiste des groupes terroristes au Maghreb, Tarek Hafid, la fondation d'Al-Andalus, bras médiatique de l'organisation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, a publié en février une vidéo réalisée par des terroristes algériens. Le commentateur, un certain Abou Djililib al-Jazairi, dit aux Algériens que le djihad est une obligation pour chaque musulman. À en croire le commentateur, les images ont été tournées dans la région de Boumderes, à 50 km à l'est d'Alger. Certains passages montrent des hommes portant des armes automatiques sur une plage. Toutefois, les éléments de référence idéologique présentés dans cette vidéo montrent que ce groupe affilié à ACMI se revendique également de l'idéologie de Daesh. Une situation inédite initiée par ce groupe hybride qui se positionne entre deux organisations terroristes ennemies. Jalil Lounas, professeur en relations internationales à l'université américaine d'Ifrane au Maroc, spécialiste des groupes terroristes au Maghreb et au Sahel, a décrypté cette vidéo. Il faut regarder la vidéo dans le détail pour comprendre que ces individus n'ont rien à voir avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, a-t-il expliqué. Avant tout, on constate que le commentateur ne fait aucunement référence au chef d'ACMI. Il ne parle pas d'Abdelmalek Druktel ni de son successeur Abu Obeida al-Anabi, ni même d'Iyad al-Ghali, pourtant l'homme fort de l'organisation dans le Sahel. Sur le plan de la présentation, le commentateur essaie au début de parler en langue arabe classique, puis il passe rapidement au dialecte algérien. C'est une démarche étonnante, car les responsables d'ACMI qui apparaissent dans les vidéos ont toujours fait l'effort de parler en arabe classique, qui est considéré pour eux comme étant la langue de l'islam. C'est surtout sur le plan idéologique cité en référence dans la vidéo que le rapprochement avec Daesh est évident. Les fatwas proviennent du clergé takfiriste de Daesh, qui est composé d'exégètes saoudiens, a précisé Jalil Lounas. Le commentateur cite nommément Suleyman ben Nasr al-Houlawani, qui est un des exégètes les plus radicaux, ainsi qu'Abdelazizi al-Tarifi, qui est détenu en Arabie Saoudite depuis 2016. Une fatwa takfiriste d'Al-Utaibi est également mise en avant. Elle dit « Même ceux qui prient, font le ramadan, font le pèlerinage, ne sont pas des musulmans lorsqu'ils remplacent la loi de Dieu par d'autres lois. Ce sont en somme des infidèles, puisqu'on ne peut pas croire un peu et rejeter le reste. On croit à tout ou rien. » C'est une déclaration d'apostasie qui concerne tous les musulmans. La vidéo évoque à plusieurs reprises les dits annulatifs de l'islam, qui sont les conditions qui conduisent à déclarer l'apostasie d'un musulman. J'en ai rarement entendu parler, sinon jamais de la part d'ACMI. En revanche, Daesh s'y réfère régulièrement, car c'est une organisation néo-takfiriste pour laquelle les enseignements du wahhabisme sont fondamentaux. D'ailleurs, les manuels que diffuse Daesh dans ses camps d'entraînement tournent autour de cette notion d'annulatif de l'islam, souligne le professeur des relations internationales. Autre indice sur la proximité avec Daesh. Alors qu'aucune opération d'ACMI n'est citée, la vidéo rend hommage au terroriste qui avait été éliminé à Tipaza en janvier 2021. Le groupe était considéré comme les membres de Junud al-Khalifa, un groupe armé affilié à Daesh qui est apparu en Algérie en 2014. Junud al-Khalifa s'était notamment fait connaître par l'enlèvement puis l'assassinat du ressortissant français Hervé Gourdel. L'autre élément, c'est un hommage à Abu Mus'ab al-Zarqawi, considéré comme le père fondateur de Daesh. Pour Jalil Lounas, ce n'est pas logique de se revendiquer de l'organisation que dirige Ayman al-Zawahiri et d'honorer son ennemi Abu Mus'ab al-Zarqawi. Il y a eu une violente querelle accompagnée d'insultes entre al-Zarqawi et al-Zawahiri durant des années, dont les conséquences se sont poursuivies après la mort d'al-Zarqawi, en débouchant sur la rupture avec Al-Qaïda et la création de Daesh. Le point principal de cette dispute était le concept de l'excuse de l'ignorance, utilisée par Al-Qaïda pour éviter de tuer des civils, quelle que soit leur religion. Al-Zarqawi rejetait ce concept et disait que tous ceux qui ne pratiquaient pas l'islam étaient des impies et ceux qui ne se déclaraient pas d'impiété sur les impies le sont eux-mêmes, a ajouté Jalil Lounas. Le professeur Jalil Lounas relève cependant une contradiction dans la logique de cette vidéo, puisque ses initiateurs ont intégré un passage montrant le terroriste algérien Nabil Sahraoui, éliminé par l'armée algérienne en 2004, qui était un émir du groupe salafiste pour la prédication et le combat, se démarquait des crimes commis au nom du takfirisme par le groupe islamique armé GIA. C'est sous la direction d'Antar Zoubari que le GIA avait commis des massacres contre les populations civiles après que le peuple algérien a été déclaré apostat. Il faut être conscient de la situation. Des terroristes en Algérie prennent comme référent les idéologues et les chefs de Daesh, voire des Hazimi, considérés comme la pire secte du courant takfiriste que même Daesh a dû éliminer à cause de son extrémisme et de sa violence. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette vidéo, dit le professeur Jalil Lounas. C'est peut-être un groupe qui est affilié à ACMI et qui va se radicaliser pour passer sous la coupe de Daesh. On peut penser également que ces derniers estiment que Daesh est plus attractif auprès des jeunes, d'où ses références tout en restant, paradoxalement, s'abstenant de franchir la ligne d'une apostasie collective, ce qui pourrait expliquer une référence à Sahraoui. Il semble qu'il y ait quand même une rupture avec le leadership d'ACMI, a-t-il ajouté.
Thank you.